Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Nouvelle interview, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Gorge. Bonjour Florent.
Salut Sébastien.
Petit pas de côté par rapport à la thématique habituelle du podcast, nous allons parler aujourd'hui du jeu Space Invaders. Je t'ai contacté au départ pour un projet totalement différent du podcast et j'ai réalisé qu'une interview pouvait aussi être intéressante pour les auditrices et auditeurs d'Already Flashed. Tu es journaliste et historien du jeu vidéo, tu as cofondé les éditions Pix & Love, puis Omake Books, et surtout tu es le biographe officiel du créateur de Space Invaders, avec le livre Space Invaders, comment Tomohiro Nishikado a donné naissance au jeu vidéo japonais.
Ouais, bah écoute, merci d'avoir résumé aussi bien ma carrière. Ouais.
On revient 50 ans en arrière, dans les années 1970 au Japon.
Ouais.
Donc Tomohiro Nishikado est salarié de Pacific Kogyo à l'époque, une filiale de Taito.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait cette entreprise et ce que fait Monsieur Nishikado ?
Alors, Monsieur Nishikado, effectivement, est un Japonais qui est passionné par tout ce qui est électricité, électronique, enfin bref, les nouvelles technologies de l'époque. Et il décide de faire des études d'électronique et cherche un emploi. Il va le trouver donc à Pacific Kogyo, qui est donc une filiale de Taito. Taito, hein, qui sera plus tard connu comme l'éditeur de Space Invaders, c'est un géant des salles d'arcade japonais. Mais à cette époque, le jeu vidéo n'existe pas encore. On est vraiment au début des années 70 et Taito fabrique ce qu'on appelle des bornes électromécaniques. Donc en gros, je vous donne un exemple. Hein. Vous avez une voiture qui ressemble à une voiture télécommandée, mais qui roule sur un tapis roulant. Tout ça, c'est électrique, mécanique. Voilà. Et vous avez, vous, en tant que joueur, un volant que vous tournez à droite, à gauche, et ça fait bouger la petite voiture sur le tapis roulant, et vous marquez des points quand vous passez différents points sur le tapis, quoi. Donc, c'est ça que fabrique Pacific Kogyo à l'époque, et Monsieur Nishikado va être dans cette division de recherche et développement pour fabriquer lui-même ses propres bornes électromécaniques. Voilà.
D'accord, donc c'est à la forme d'une borne d'arcade telle qu'on l'a connue des années plus tard, mais mécanique. Donc avec,
Oui, c'est ça. Il faut vraiment, en fait, là, l'exemple que je vous ai donné, c'est une borne qu'on a connue aussi chez nous, avec la petite voiture mécanique, etc. Mais en gros, il faut vous imaginer, c'est des variantes de flipper. Voilà, on n'est pas dans le jeu vidéo, on est vraiment dans tout ce qui est mécanique, électronique. Et lui, il va en créer plusieurs qui sont, pour certaines, vraiment géniales. Des simulateurs de tir. Vous êtes placé dans un cockpit d'avion et vous avez des petits avions en fait qui volent devant vous et vous devez tirer dessus. Et l'effet visuel, c'est des effets spéciaux, hein, vraiment. Ils utilisent aussi, vous savez, des techniques qu'on utilisait dans le cinéma, dans les films comme Godzilla à l'époque, dans les années 50-60. Et c'est bluffant. Quand on est dedans, on se dit, mais comment c'est possible d'arriver avec juste de la mécanique à faire des effets spéciaux comme ça? On s'y croirait. On a vraiment l'impression de voler. Il y a un défilement des nuages sous les yeux. C'est assez bluffant. Alors, ces bornes, elles ont disparu, évidemment, parce que mécanique, c'est très, très compliqué à entretenir. Ça tombait souvent en panne. Et quand les jeux vidéo sont arrivés quelques années plus tard, évidemment, les jeux vidéo vont tout écraser et les bornes électromécaniques vont disparaître. Ouais.
D'accord. Pong est sorti en 1972, Breakout arrive en 1976 sur borne d'arcade et est un énorme succès d'Atari. Pacific Kogyo lance alors le projet KX-79 en 1977, qui sera le futur Space Invaders. Ouais. Comment se passent les débuts du projet ?
Il faut revenir très très vite, parce que Monsieur Nishikado, si je lui ai consacré une biographie entière, c'est parce qu'évidemment, il a signé Space Invaders, mais en réalité, il a aussi signé tous les grands hits du jeu vidéo des années 70. On les a un peu oubliés aujourd'hui, mais il en a signé un bon paquet. Et c'est aussi tout simplement le père du jeu vidéo japonais. C'est-à-dire qu'il a créé Soccer, qui était un dérivé de Pong, mais c'est le premier jeu national, on va dire, au Japon.
D'accord.
Donc en 1973. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Et c'est un des grands, grands noms du jeu vidéo, bien entendu. Et alors, le projet KX-79, comme tu dis, effectivement, il va naître d'une certaine frustration, quelque part, parce qu'en réalité, en 1975, il y a, tu l'as dit, le succès de Breakout. Breakout, pour resituer un peu, c'est du casse-brique. Je pense que les plus vieux s'en souviennent, hein, évidemment. Vous avez une raquette en bas, une petite balle qui traverse l'écran. Et en haut de l'écran, vous avez plein de briques qu'il faut casser en touchant la balle. Donc, il faut éviter que la balle tombe en bas de l'écran. Voilà, c'est ça le casse-briques. Et en réalité, M. Nishikado, à cette époque, il va avoir un déclic. Il se dit, mais c'est dingue. Moi, j'ai déjà créé une bonne demi-douzaine de jeux. Et à chaque fois, j'ai voulu pousser le réalisme. Alors, évidemment, on est encore dans les années 70, hein, mais c'est-à-dire que déjà à l'époque, les créateurs de jeux vidéo, ils faisaient tout pour que le jeu soit le plus réaliste possible. Donc, ils faisaient des jeux... Lui, il a fait, par exemple, un jeu de basket qui était visuellement assez identifiable en tant que tel, ce qui était assez rare dans les années 70. Et il a créé aussi un jeu de voiture, le premier jeu avec scrolling. Le scrolling, c'est le défilement de l'écran. Ça, c'est une prouesse technique aussi, hein. Donc, le premier jeu avec un défilement d'écran, c'est lui qui l'invente. Et donc, il était sans cesse, en fait, en recherche de réalisme. Mais je ne sais pas si tu as noté, quand j'ai parlé de jeux de voiture ou jeux de basket, il ne faisait que reproduire des jeux qui existent dans la réalité. Mmh. Autrement dit, à cette époque, on n'a pas encore très bien compris que le jeu vidéo peut s'émanciper des jeux du réel, donc du foot, du basket, etc. Et là, il y a Breakout, donc un casse-brique qui sort. Le casse-brique, objectivement, ça ne ressemble à rien de connu dans le monde réel. Et en plus, graphiquement parlant, c'est on ne peut plus basique. Il se dit, c'est fou, quoi. Le succès de ce jeu, alors que nous, on essaye de faire des trucs super réalistes, le plus proche possible de la réalité. Et là, ce jeu, il débarque sans crier gare. C'est pas très joli, mais c'est hyper prenant, c'est hyper addictif. Et donc, ça va le remettre en question. Et là, quelqu'un dans sa boîte, à Pacific Kogyo, va lui lancer un défi. Breakout a tellement de succès qu'on va lui dire, écoute, maintenant, ton défi, c'est de détrôner Breakout, le sortir des salles d'arcade pour le remplacer avec un jeu Taito. Et là, le devis va être tenté, on va dire.
Ok. Nous sommes à l'automne 77. Star Wars n'est pas encore sorti, il doit sortir un an plus tard. Mm-hmm. Ça inspire Monsieur Nishikado. Est-ce que tu peux parler de ses idées qu'il a sur la création d'un jeu dans l'espace et le design des Invaders?
Ouais, c'est vrai que le design des Invaders aujourd'hui, c'est un peu ça qui nous réunit ce soir. Mais ce qui est d'intéressant, c'est le procédé créatif que va employer Monsieur Nishikado pour créer Space Invaders. En réalité, quand on regarde Space Invaders, on s'en rend pas compte. Mais imagine que les aliens, les envahisseurs, en fait, ce sont de simples briques. Bah, tu retrouves en réalité la même structure que Breakout. Mmh. Sauf que Monsieur Nishikado, il va repenser complètement ce concept en se disant, je vais aller plus loin que Breakout. C'est-à-dire que Breakout, au final, tu joues contre toi-même. Est-ce que tu as les réflexes? Il s'est dit, en réalité, plutôt que d'avoir une balle qui rebondit avec un algorithme, tu vois, sur les murs, etc., et si je tirais avec la raquette qui se trouve en bas, est-ce que si je tirais en haut, qu'est-ce qui se passerait? Alors, il va d'abord imaginer, voilà, il appuie sur un bouton, ça tire, il casse les briques. Il se dit, bah, c'est pas très rigolo. Donc, on va faire bouger les briques. À partir de là, il va commencer à créer un programme où il va faire bouger les briques de droite à gauche. Il se dit, ah, c'est pas mal, mais ça manque quand même de danger, quoi. Enfin, il n'y a rien à faire. Voilà. Et là, il va avoir une idée qui est géniale, qui est totalement banale aujourd'hui, mais avec le recul, dans le contexte de l'époque, qui est absolument géniale, il se dit, je vais créer un duel machine contre homme, homme contre machine. Jusqu'à présent, tous les jeux vidéo qu'on trouve, c'était toujours un duel contre soi-même ou un duel contre un autre joueur. Mmh. On ne parlait pas d'intelligence artificielle encore à cette époque. Or, les jeux de l'époque, par exemple, vous mettiez 5 francs, eh bien, vous aviez un timer qui se déclenchait et vous aviez 90 secondes pour faire le plus gros score possible. C'était un défi contre vous-même. Dans Pong, vous jouiez contre un autre joueur et c'était à celui qui marquerait le plus de points. Là, il se dit, je vais faire un duel à mort entre la machine et l'homme. Et donc, en gros, plutôt que de se contenter d'être le seul à tirer sur des cibles en haut de l'écran, et si les cibles, elles pouvaient nous tirer dessus. Mmh. Et ça, c'est absolument génial. Donc, c'est tout simple, hein, mais comme toutes les idées simples sont géniales, etc. Et à partir de là, on va commencer à voir se créer le concept de Space Invaders. Sauf qu'il n'est pas très content des simples briques. Il se dit graphiquement, ça ressemble à rien. Il faudrait quand même quelque chose de plus joli. Donc là, il va avoir un certain nombre d'étapes qui sont assez intéressantes. Au début, il va remplacer les fameuses briques par des cibles un petit peu rondes, mais avec les gros pixels de l'époque, ça rend pas grand chose. Il se dit, bon, bah, je vais mettre des avions. Le problème, c'est qu'il fait se déplacer les avions de droite à gauche, c'est pas très réaliste, il arrive pas à faire un truc chouette en réalité. Donc il va penser à des tanks, etc., etc. Et rien ne lui convient. Et là, il se dit, hey, mais si je mettais des humains. Et là, il commence à essayer avec des humains. Puis alors là, branle-bas de combat dans la société. Il fait, mais t'es malade, ton jeu est ultra violent, ça se fait pas. On va s'en prendre plein la figure, ça va être une catastrophe. Et donc il se dit, bah, c'est ennuyeux, mais je peux pas mettre les humains. Bon. Et puis un jour, il lit le journal et il apprend que aux États-Unis, il y a un film qui s'appelle Star Wars qui cartonne. Donc tu en parlais, mais tu vois, là, comme ça la transition est faite. Il y a un film qui s'appelle Star Wars et qui cartonne de chez cartonne. Il est annoncé pour l'année d'après au Japon. Donc Space Invaders en réalité sortira avant Star Wars. Et là, il se dit, ah, mais alors, c'est un truc qui va se passer dans l'espace. OK, on a un problème à se représenter un humain qui tire sur d'autres humains. Mais si on imagine que cet humain, il tire sur des aliens qui veulent nous envahir, là, ça posera pas de problème à personne. Et à partir de là, il se dit, il faut que j'invente des aliens. Alors évidemment, le film Alien n'existe pas, donc il se pose la question, à quoi peuvent ressembler, quelle forme je peux donner à ces aliens? Et il va se remémorer un souvenir d'enfance quand il avait son premier gros traumatisme au cinéma. Il avait été voir La Guerre des Mondes de H.G. Wells à l'époque. Et pour lui, dans sa tête, à l'époque, hein, nous aujourd'hui, c'est les aliens de la zone 51 qui font figure d'autorité d'un point de vue de l'apparence. Mais à l'époque, dans les années 60-70, c'était les espèces de poulpes qu'il y a dans la Guerre des Mondes. Et donc, le premier envahisseur, le premier extraterrestre qu'il va créer, c'est le poulpe. Et puis, comme il avait encore un petit peu de place sur sa mémoire, il s'est dit, je vais créer d'autres formes. Et donc là, il s'est dit, bon, on est dans l'univers marin, les poulpes, donc je vais faire un calamar. Et puis, il a eu l'idée en dernier de faire un crabe. Donc voilà, ce sont les trois figures emblématiques de qu'on voit dans Space Invaders. Et puis en plus, le crabe, c'était cool parce que comme les personnages à l'écran se déplacent de droite à gauche, les crabes se déplaçant aussi de façon latérale, il trouvait que ça faisait sens. Donc, il s'est dit, bah, les crabes, c'est super. Voilà. Voilà comment, entre guillemets, est né le design des envahisseurs.
Ok, c'est top. Comment devait s'appeler le jeu initialement? Il avait une idée assez différente.
Oui, c'est vrai. Alors, le projet, c'était, on l'a dit tout à l'heure, KX-79, mais jusqu'à la toute fin du développement, le jeu s'appelait Space Monsters. Monster, parce que il avait eu l'idée, parce qu'il s'était dit qu'il y avait une chanson à cette époque, qui est cartonnée au Japon, qui s'appelait Monster, et qui était chantée par les deux starlettes de l'époque, hein, qui s'appelaient les Pink Ladies. Donc, c'est deux, en gros, c'est Chantal Goya et Sylvie Vartan qui chantent ensemble, quoi. Et c'était un titre qui cartonnait, et puis il a rajouté le terme space parce qu'il trouvait que c'était cool, donc voilà, Space Monster, il trouvait que ça rendait bien. Et dans sa tête, il va garder Space Monster évidemment jusqu'au bout, et c'est là que en réalité Taito va se rendre compte que quelques années plus tôt, ils avaient déjà sorti un jeu qui s'appelait Space Monster. Ouais. Donc monsieur Nishikado, il était dégoûté en disant, mais vous auriez pu me le dire plus tôt. Alors lui, il avait pas remarqué non plus, hein, mais bon. Et donc il a dû changer, et dans sa direction lui a imposé d'appeler Space Invaders, et lui il a longtemps refusé d'accepter ce nouveau titre, et surtout ça l'ennuyait parce que il n'avait plus un seul octet de disponible dans sa mémoire, dans le microprocesseur, et il a dû passer des jours en fait pour arriver à trouver un octet pour lui permettre d'écrire la lettre qui manquait, parce qu'il pouvait pas afficher le dernier S de Space Invaders. Vous voyez, on est vraiment à cette période de l'histoire, quoi.
Dans ton livre, tu parles aussi du design extérieur des bornes, donc oui. Avec des monstres. Ce design et ces graphismes ont été faits alors que le jeu s'appelait encore Space Monsters, et ils l'ont pas changé au moment où ils...
Oui, exactement. Le design n'a pas changé. Et en fait, cette illustration, c'est ça qui a permis de donner un contexte historique. Là aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais la pauvreté graphique des technologies de l'époque ne permettait pas d'avoir une narration très poussée. Hein. On est loin des Last of Us et autres jeux modernes. Et donc, il fallait raconter les histoires autrement. Et souvent, le design des bornes racontait cette histoire. Et donc, dans Space Invaders, on découvre, on comprend, quand on regarde un peu les illustrations dans la borne, etc., que nous sommes, en fait, sur la Lune, et que nous sommes la dernière base avant une invasion extraterrestre. La Lune, en gros, c'est vraiment la dernière barricade de sécurité avant que la Terre se fasse envahir. Et c'est pour ça que, quand vous regardez le design de la borne, on a des monstres qui nous foncent dessus, donc les monsters. Ils sont pas du tout des crabes, en fait, hein, parce que le design était déjà fait. Et puis, vous voyez des cratères, on voit vraiment qu'on est sur la Lune et qu'on doit défendre la Terre avec ce dernier rempart. Ouais.
On connaît tous ici le son du flash qui a été utilisé pendant les 10 premières années de Flash Invaders et qui est d'ailleurs tiré du jeu Galaga de Namco sorti en 81 et pas de Space Invaders.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler du design sonore de Space Invaders et des inspirations qu'il a eues ?
Ouais, c'est vrai que là aussi c'est incroyable et je t'avouerai que, bon je spoil un peu, mais c'est vrai que moi aussi je suis un flasheur, donc voilà. mais quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit, mais c'est Galaga, ça c'est pas Space Invaders, j'étais un peu dégoûté, je me suis dit, mais le nul. Bon, mais là c'est vraiment les trucs de geek. Hein. Et effectivement, alors l'influence sonore, là pour le coup c'est pas Monsieur Nishikado qui a été en charge de réaliser, entre guillemets, la bande son, parce que c'est vraiment, en réalité c'est des bruitages, mais des bruitages bien mis les uns au bout des autres, ça peut permettre de faire des trucs très convaincants. Et donc le monsieur qui a créé ça, c'est Monsieur Kamei, il avait 22 ans à l'époque, et lui... il est parti du principe, en connaissant l'histoire du jeu Space Invaders, il s'est dit, bon, ben, on a une troupe d'aliens, une armée d'aliens qui descendent petit à petit, qui se rapprochent de la surface de la Lune. Il faut qu'on ressente le stress de quelque chose qui se rapproche de plus en plus et de plus en plus vite. Et là, en fait, il va se remémorer le film qu'il a été voir il y a à peine quelques semaines avant, c'est Les Dents de la Mer. Ok, et tout le monde connaît la musique des Dents de la Mer, hein. Enfin la musique entre guillemets, la partie sonore thème, qui est la plus stressante, c'est et puis ça se rapproche de plus en plus et le stress est vraiment incroyable. Et lui, avec les capacités sonores de l'époque, il s'était dit, bah si c'est juste deux notes en fait qui se répètent mais qui sont de plus en plus rapprochées, je peux le faire. Et voilà, quand vous écoutez en fait la bande son de Space Invaders, eh bien, en réalité, et que vous dites, hey, mais ça ressemble à aux Dents de la Mer, eh bien, vous avez en réalité la source d'inspiration qui est là et qui est sourcée. Voilà. Et ce qui est, comment dire, autre petite anecdote, ce qui est rigolote, c'est que Space Invaders, c'est peut-être pas le premier, mais sûrement le deuxième jeu avec un fond sonore constant. Jusqu'à présent, les jeux vidéo n'avaient pas de puces sonores, donc on entendait juste des petits bruitages, mais il n'y avait pas une musique comme aujourd'hui dans les jeux qui nous accompagnent du début jusqu'à la fin, quoi. Et Space Invaders, c'est peut-être le deuxième, en fait, à avoir une musique constante. Voilà.
D'accord. Il faut finalement un an et demi pour que le jeu soit terminé, après l'apprentissage de la programmation par Tomohiro Nishikado,
ouais.
Sa création de ses propres outils de développement et le développement du jeu en lui-même. Quels sont les premiers retours des commerciaux de Taito et des professionnels du secteur ?
Très mauvais.
Si je te pose la question, c'est que j'ai bien lu ton livre.
Merci. Non, ils sont en effet très mauvais. Je crois que c'est en juin 1978. Il y a donc la présentation lors de salons professionnels. Là, évidemment, tout ce qu'on appelle aujourd'hui des opérateurs viennent au salon Taito pour découvrir les nouveautés Taito, ce qui sera présenté, etc. Et il y a plein de jeux. Et a priori, Space Invaders, c'est celui qui plaît le moins et c'est celui qui même reçoit le plus de critiques. Et les critiques, puisque je sais que tu vas me poser la question, donc j'anticipe, quelles étaient ces critiques ? En réalité, les opérateurs trouvaient le jeu, ils trouvaient que c'était une arnaque. Et là encore, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il y a des gens, en fait, qui sont arrivés lors de ce salon, et donc ils avaient des pièces à disposition pour essayer les jeux. Ils mettent une pièce de 100 yens dans la borne, et là, le jeu a à peine commencé que bim, il perd une vie, tu vois, parce que t'as un envahisseur qui lui tire dessus, et en gros, il a perdu sa pièce de 100 yens, l'équivalent de nos 5 francs de l'époque, en même pas 30 secondes. Et il se dit, mais c'est quoi cette arnaque, quoi ? Ce jeu est trop dur. Encore une fois, à l'époque, quand tu mettais 100 yens, quand tu mettais 5 francs dans les jeux électromécaniques, tu avais assurément au moins 1 minute 30, 2 minutes de jeu, c'est sûr. Parce que tu avais ce fameux système de timer où tu devais faire le meilleur score possible. Okay ? Et ben dans le jeu vidéo, ce n'était pas encore une évidence que d'avoir 3 vies et à toi ensuite de durer le plus longtemps. Si tu étais nul, tu pouvais perdre en 20 secondes. Si tu étais bon, tu pouvais jouer 2 heures. Voilà.
D'accord.
Et ça, en fait, ça faisait peur aux opérateurs,
oui.
Et parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, hein, tout simplement.
La borne sort en juillet 78. Elle est distribuée dans les 500 salles de jeu de Taito, donc les salles qu'ils ont en propre. Et il se passe quelque chose d'incroyable au bout d'un mois. Donc, tout le monde pense à un bug. Mais ce n'est pas ça.
Ouais, effectivement. Alors ça, c'est une histoire qu'on entend très souvent dans l'histoire du jeu vidéo d'arcade. Et là, pour le coup, bon, bah, c'est pas des sornettes, mais c'était déjà le cas pour Pong à l'époque. La fameuse, vous savez, histoire d'Atari où ils ont posé une borne de démonstration dans une taverne aux États-Unis. Et le tenancier appelle le lendemain en disant, mais elle est nulle, votre machine, elle est déjà cassée, ramenez-la, je veux plus en entendre parler. Elle marche pas. Et puis quand ils essaient de voir pourquoi elle marche pas, en fait, ils se rendent compte que la cash box est pleine et c'est pour ça qu'elle est cassée, quoi. Eh bien, il s'est passé la même chose pour Space Invaders en réalité.
Donc la cash box, c'est l'emplacement où toutes les pièces sont stockées.
Exactement, ouais. Et là, en fait, les gérants des salles, eux, ils ont pas. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'ils ont pas les clés pour les cash box. En général, les bornes, elles sont louées. Donc les gérants de cafés, etc., ils louent les bornes. Et puis, régulièrement, les techniciens de Taito, de Sega, etc., ils passent faire le tour de toutes les salles pour récupérer les pièces. Et ensuite, il y a un partage qui est fait. En gros, c'est 50%, moitié-moitié pour le café ou le restaurant ou la salle, et 50% pour l'éditeur. Voilà. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose. Alors que le jeu était censé ne pas connaître le succès, eh bien, les boîtes, enfin les cash box se remplissent tellement vite que régulièrement en fait les opérateurs de Taito, on les appelle en disant mais dépêchez-vous là, il faut vider la cash box, quoi. Voilà.
Bon, ça entraîne l'explosion des commandes.
Ouais.
Taito est débordé, n'arrive pas à suivre. Des constructeurs font des bornes sous licence officielle. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des licences qui sont accordées pour un jeu.
Une des
Et
premières fois.
D'autres font des copies.
Ouais.
Tu considères dans ton livre que c'est la naissance de l'industrie du jeu vidéo japonais, et il y a le premier procès en 1982 pour copie.
Ouais, là c'est vrai que t'as abordé plein de sujets qui sont incroyables et qui sont pionniers dans l'histoire du jeu vidéo, mais quand on dit qu'effectivement Space Invaders a été le déclencheur de l'industrie du jeu vidéo japonaise, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que le jeu vidéo existait déjà, hein, y avait déjà Sega, il y avait déjà Taito, qui était Namco aussi arrivait, mais Space Invaders a connu un tel succès, on va le voir après, ça a été une telle folie que le nombre de gamins en fait qui se sont dit moi aussi je veux faire des jeux vidéo quand je serai grand, tous les développeurs de Nintendo des années 80 les plus connus, ils ont tous décidé à ce moment-là en fait de devenir développeurs de jeux vidéo, tellement Space Invaders les a marqués. Et ça a été vraiment et quand on dit aussi que ça a déclenché une industrie, c'est parce que tu le disais tout à l'heure, il y a eu énormément de copies. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui sont nés à cette époque quand ils ont vu l'argent que ramenait une borne. C'est-à-dire qu'une borne, en une journée, pouvait rapporter 800 euros, quoi. Une borne. Et imaginez, vous en avez 10 dans la salle. Forcément, vous allez y avoir 10 joueurs. C'était une machine à cash hallucinante. Et donc, forcément, quand vous avez toute cette machine à cash, pour blanchir l'argent, c'est hyper facile. Okay, donc vous avez toute la pègre, donc tous les Yakuza qui se sont engouffrés dans le truc, ça a créé énormément de problèmes. Donc Space Invaders, c'était pas qu'un succès, ça a été aussi un vrai problème de société à bien des égards. Peut-être qu'on en parlera après, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup en fait de sociétés d'électronique qui se sont dit bah nous c'est facile, on peut en faire des trucs comme ça, et donc ils se sont lancés là-dedans, et c'est devenu des sociétés, bah vous voyez Konami par exemple, Capcom, ce qui deviendra Capcom plus tard, toute SNK aussi par exemple, donc la Neo Geo, tout ça, bon je parle vraiment aux gamers là, mais toutes ces sociétés là sont nées du fait du succès de Space Invaders, directement ou indirectement. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle de la naissance de l'industrie. Et même Nintendo a copié Space Invaders, donc aujourd'hui ils n'en sont pas très fiers, mais même Nintendo a copié Space Invaders, ils ont eu leur clone de Space Invaders, et ils ont eu des problèmes avec Taito à l'époque. Hein.
Voilà. Okay. Donc je parlais d'explosion des commandes, se créent alors des Invader House, donc qui sont des salles dédiées avec que des bornes Space Invader.
Ouais.
Le jeu est partout, est-ce que tu peux parler de cette période, enfin tu en as parlé un petit peu là, de la fameuse histoire des pièces de 100 yens et de l'addiction des enfants et ados.
Ah ouais, c'est incroyable, vraiment, le phénomène. Moi, j'étais pas né, malheureusement, mais j'aurais vraiment voulu voir ça de mes propres yeux. Je suis né en 79. C'était pendant le boom, en fait, Space Invaders. Peut-être que je suis né pour voir ça, j'en sais rien. mais il y a un truc qui est absolument génial, moi, je trouve, dans cette histoire, c'est que, à la base, les Japonais ont eu une idée assez dingue. C'était de se dire, les Japonais sont des gens très pragmatiques. Hein, ils se posent toujours la question, comment est-ce qu'on peut faire pour faire encore plus d'argent? Et Taito a eu une idée absolument incroyable. Ils se sont dit, les bornes d'arcade, ça prend de la place, etc. Où est-ce qu'on pourrait en mettre? Mais comme ça prend trop de place, comment est-ce qu'on pourrait faire pour gagner de la place? Et là, ils ont eu une idée qui était cool. C'était de se dire, on va faire des bornes d'arcade, mais en forme de table. C'est ce qu'on appelle les tables cocktail. OK? Et ils ont eu une idée, dans la poursuite de leur idée, c'était de dire, on va aller voir les cafés, les restaurants, les bars, et leur dire, voyez votre table là, bon, OK, elle vous a pas coûté cher, elle vous a coûté 250 francs. Mais imaginez, vous louez notre table. Votre table là, elle va vous rapporter 250 francs tous les jours. Évidemment, tous les mecs dans les cafés, ça, ils font, bah, donnez-moi votre table, je vous la loue, pas de problème. Et à partir de là, en fait, il y avait plus un seul café à Tokyo qui n'était pas équipé de table Space Invaders. Et ouais. Par-dessus le marché, il y en a d'autres qui vont être encore plus malins et qui vont se dire, mais on s'en fout du café, en fait. On va faire des salles où il y aura que des tables Space Invaders, il y aura même pas de café.
Ouais.
Et donc, c'est là qu'en fait vont naître les premières vraies salles d'arcade japonaises. Puisque là, jusqu'à présent, les salles, entre guillemets, les salles de jeu, c'était des bowling, c'était des cinémas. Là, on trouvait des bornes, des flippers, etc. Mais il n'y avait pas de salle de jeu vidéo dédiée. Et donc, le terme salle d'arcade n'existe pas. Le terme game center n'existe pas. À l'époque, on appelle ça des invader house. Parce que c'est des maisons dans lesquelles, qui ont été envahies par le jeu Space Invaders, littéralement. Et ça va s'appeler Invader's House. Et il y en aura littéralement partout au Japon.
Ouais, ouais.
Et voilà.
Ça va jusqu'à poser un problème pour les pièces de 100 yens ouais. À l'échelle du pays.
Ah oui, ça c'était ça aussi. Ça c'est longtemps resté une légende urbaine. Mais moi, Monsieur Nishikado me l'a affirmé. Il m'a dit non, j'ai des preuves. Il nous a sorti des preuves d'ailleurs. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était addict. Mais vraiment, tout le monde était addict à Space Invaders. C'était un phénomène de société dingue. Et donc, les salarymen, les étudiants, dès qu'ils avaient fini leur cours ou dès qu'ils avaient fini le boulot. Ils allaient faire de la monnaie, ils échangeaient 1000 yens, un billet de 1000 yens contre 10 pièces de 100 yens. Et puis, ils posaient leurs 10 tas de pièces sur la borne, quoi. Et chacun son tour jouait, etc. Et en fait, toutes les pièces de 10 yens se sont retrouvées englouties dans les bornes Space Invaders. Et tout à l'heure, je te parlais, tu vois, des cashbox qui se remplissaient. Les mecs de chez Taito avaient été tellement occupés qu'ils n'avaient même pas le temps de faire le tour du quartier que déjà il fallait revenir chercher dans les premières salles, remplir des nouveaux sacs de pièces. Et donc, il y avait des sacs entiers qui pesaient, je sais pas, parfois 20, 30 kilos de pièces de 100 yens qui attendaient d'être amenées à la banque. Et en fait, le Japon s'est retrouvé avec une pénurie de pièces de 100 yens. Ça, c'est complètement dingue, quoi.
C'est incroyable.
Et ça, c'est souvent resté une légende urbaine, en disant, mais c'est quand même pas possible, etc. Et on a retrouvé, évidemment, des archives de la banque nationale japonaise, avec tous les mois, vous savez, ils ont l'obligation de dire combien d'argent a été tiré, enfin voilà, pour voir, enfin c'est l'économie de base. Et on se rend compte qu'effectivement, en 1979, il y a un pic pour la presse de pièces de 100 yens, voilà. Et Monsieur Nishikado, lui, a été témoin d'un truc complètement fou. Vous savez les camions Brinks, les trucs
transport de fonds.
Les transports de fonds, voilà. Un jour, il a été témoin. Il était avec un collègue. Ils avaient tellement chargé des pièces, c'est méga lourd. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte parce qu'on en a jamais souvent tellement dans sa poche, mais une pièce de monnaie, c'est super lourd par rapport à la densité. Et à un moment, il s'est retrouvé. Il y a un camion qui s'est retrouvé sur les essieux et les deux pneus étaient levés, quoi. Tellement il y avait de pièces chargées à l'arrière du camion. C'était la folie, vraiment. Et ça a créé, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, des problèmes, parce que blanchiment d'argent hyper facile, indétectable. Enfin bref, les gamins étaient devenus, pareil, addicts. C'est-à-dire qu'on a vu, on a commencé, pourtant les Japonais sont des gens bien élevés, mais il y a beaucoup d'adolescents qui piquaient l'argent dans le porte-monnaie de la maman, quoi.
Ouais.
Qui racketaient les gamins parce qu'ils n'avaient pas de monnaie, puis ils étaient tellement addicts à Space Invaders que, qu'il y a certains collégiens qui allaient racketter les gamins d'école primaire pour qu'ils leur filent 100 yens, tu vois. Donc, il y a eu plein de faits divers comme ça, assez glauques, assez... voilà, c'était nouveau pour le Japon et c'était la folie, ouais.
Ouais, c'est fou. Avant qu'on bascule sur la deuxième partie de l'épisode, est-ce que tu as d'autres anecdotes sur Space Invaders ?
Oui, il y en aurait tellement si tu savais. Je peux t'en donner une qui est marrante, c'est que Monsieur Nishikado, en tout et pour tout, pour le récompenser, il a reçu l'équivalent d'une télécouleur. On n'est pas aux États-Unis. Hein. Ouais. Aux États-Unis, il serait richissime. Non. Il a eu un petit bonus. Et avec ce bonus, il a acheté une télécouleur à sa maman. Voilà. Et autre chose qui est extrêmement cruelle, je trouve, c'est qu'en réalité, Monsieur Nishikado ne s'est fait connaître du grand public que 10 ans plus tard. Et là, on est vraiment encore une fois au Japon. Hein. C'est-à-dire que déjà, le bonus... Tout le monde a été récompensé, c'était pas que lui. C'est-à-dire que toute la boîte a eu un bonus. Mmh. Et puis, deuxièmement, les médias, quand il y avait évidemment la presse qui voulait savoir qui avait fait le jeu, etc., il y avait toujours, en fait, le chargé de com de Taito qui allait répondre à la place de Monsieur Nishikado. Pourquoi ? Parce que la mentalité japonaise fait qu'on ne met pas en avant les individus, c'est la société. Il était employé de cette société, donc c'est la société qui doit parler, quoi. Voilà. Donc, il ne s'est fait connaître que bien plus tard, 10 ans plus tard, en tant que père de Space Invaders. Bon, après, il n'est pas à plaindre. Hein. Moi, il m'a dit, je n'ai aucune rancœur ou aigreur vis-à-vis de mon ancienne direction, parce que aujourd'hui, c'est un vieux monsieur. Il est toujours vivant, mais il est toujours payé par Taito. C'est-à-dire ouais. qu'il reçoit encore un bonus honoraire. Voilà.
D'accord.
Et voilà. Et il est toujours présent aussi médiatiquement, c'est-à-dire qu'il est régulièrement encore sollicité par les médias du monde entier, et donc il répond présent, et Taito le rémunère aussi pour faire ça. Voilà. Donc il est à la retraite, il touche une bonne retraite, j'imagine, mais il est toujours récompensé. Voilà. Taito l'a jamais abandonné, et il continue d'en faire un petit peu une vitrine vivante.
Tu disais qu'il s'était fait connaître au bout de 10 ans comme étant le créateur. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis que sa femme n'a été au courant qu'au bout de 10 ans. Elle-même.
Ben ouais, pour la troisième fois, on est au Japon. Ben non, faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est que les Japonais à cette époque, ils ne rentraient jamais chez eux. Hein. Pour la dire clairement, ils dormaient au boulot, quoi. Donc, il y avait très très peu les relations, on va dire familiales. Les papas sont absents totalement. Ils passent leur journée à bosser. Et effectivement, quand ils rentrent du boulot, ils ont pas envie de parler de boulot. En plus, sa femme, ils connaissent strictement rien. C'était un geek lui, hein, mais elle s'en fichait complètement. Et c'est effectivement en voyant son mari dans les médias, on se dit mais c'est toi qui as fait spécifier. Bah oui, ok. Donc elle a découvert en même temps que tout le monde mais... que c'était son mari qui avait créé cette panique.
C'est incroyable.
Ouais.
Alors, petit clin d'œil au sujet principal de ce podcast. Tu écris à la page 157 du livre. D'ailleurs, depuis des années, l'artiste français Invader s'amuse de façon tout à fait illégale à envahir les rues du monde en accolant des mosaïques pixels parodiant les envahisseurs de Nishikado.
Yes, incroyable.
Ça fait la transition avec la suite. Ouais. Je crois que tu es fan du travail d'Invader.
Mais totalement, j'adore, vraiment. Et je suis tombé dedans très, très tôt. Je ne saurais pas resituer l'année, mais on reparlera de cette citation après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette citation. À la base, ce n'était pas du tout ce que je devais écrire, mais c'est un bouquin officiel et donc j'expliquerai après. Je suis un flasheur depuis 2019.
Oui.
Et bisous à Stéphane qui m'a fait découvrir l'application. Je ne savais pas qu'elle existait, mais alors que j'étais déjà ultra fan du travail d'Invaders. Je me souviens pas de la première fois où j'ai vu, mais ça devait être évidemment dans les tout débuts. J'ai juste un petit repère mental, c'est que en 2007, j'ai créé donc la société Pix & Love, donc qui est une maison d'édition qui publiait des livres sur l'histoire du jeu vidéo. Et on avait une publication régulière, trimestrielle, qu'on appelle un MOOC. Et le premier numéro, c'était évidemment sur Space Invaders. Donc c'était bien avant que j'écrive la biographie, mais j'étais déjà passionné par ce jeu et l'histoire du jeu. Et entre deux grands dossiers, j'avais mis une photo que j'avais prise moi-même à Paris, d'un invader pris dans la rue. Voilà. Donc c'était en 2007 et j'avais déjà dans mes archives des photos de création d'Invaders. Mais je ne savais pas comment il s'appelait, etc. Et puis en 2009, pour mes 30 ans, j'ai invité un certain nombre de copains pour fêter mon anniversaire et l'un d'eux m'a offert un bouquin vert, Invasion de Paris. dans lequel étaient regroupées toutes les photos de ce que moi j'avais vu parfois par moi-même. Et c'est là que j'ai découvert évidemment le travail d'Invaders de façon plus officielle. Et j'ai donc eu ce bouquin pour mon anniversaire. Je m'en suis débarrassé avec mais tellement de regrets, peut-être il y a 10-15 ans. Et l'autre jour, je voulais me le racheter en gros parce que je me disais c'est con, il était bien ce bouquin, je regrette de l'avoir vendu. Et je suis allé voir sur Vinted ou je sais pas quoi, il était à 800 balles quoi.
Ouais, oui.
C'est ouf. Et moi j'ai dû le revendre à une convention, tu sais, de rétro gamer pour 10 ou 15 euros quoi. Mais quel con. Donc voilà, celui qui m'a acheté, si jamais il se reconnaît dans le podcast et il veut bien me le rendre, je lui rachète 30 euros, le double de ce que je lui ai vendu. Voilà.
J'imagine bien.
Ouais.
Donc tu flashes depuis 2019, tu dis ?
Ouais. Et c'est un copain qui m'a fait découvrir l'appli. On était dans le 13e arrondissement de Paris. On était en train de manger un feu ou je sais pas quoi. Et à un moment, je lui dis, ah, regarde, celui-là, il est marrant. Il y a une mosaïque d'Invader là avec un bol de nouilles. Et là, il sort son téléphone. Il fait, ah, je l'avais pas celui-là. Et donc, il commence à flasher le truc. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi là? Et il m'explique le concept. Je fais, mais c'est génial. Et j'ai téléchargé sur le coup et ça a été mon premier flash, ça a été donc ce bol de nouilles, ce bol de ramen dans le 13e arrondissement, ouais. Avenue de Choisy, je crois.
Je vois très bien, ouais.
Ouais. Et c'était mon premier. Et depuis, je suis pas un énorme flasheur, mais malgré tout, bon, je suis 21 000, je crois, dans le classement, je dois être aux alentours de 20 000, 21 000. Je dois avoir 15 500 points. Bon, ce qui est pas dégoûtant quand tu connais l'ensemble de la communauté, mais je suis pas non plus il y en a beaucoup qui auront un meilleur score que moi dans les gens qui nous écoutent. Mais ça a changé ma façon d'arpenter les rues de Paris, hein, comme beaucoup. Hein. Ouais. Bien entendu, ça m'a changé la façon de voir les bâtiments. Alors, avant, comme tout le monde, je marchais en regardant mes pieds. Maintenant, je lève la tête et je suis de ceux qui, aujourd'hui, quand ils ont une petite demi-heure d'avance à leur rendez-vous, ne vont plus s'asseoir à un café pour patienter, mais ils vont faire le tour du quartier pour chasser des envahisseurs. Et je fais souvent de très nombreux détours. Quand je vois que j'ai que deux stations à faire, je le fais à pied maintenant. Donc cette application, elle est magique, vraiment. Ouais, je la trouve absolument géniale.
Profite de ce moment-là, parce que quand tu auras tout flashé, tu seras triste.
Ah, mais
c'est ce qui nous arrive.
C'est ton cas, Sébastien. T'as combien mince.
Je dois être à 2500 et quelques flashs.
Là, ça devient dur, ouais.
Bah, oui, bon. De toute façon, c'est un podcast de cinglés, donc...
ouais, incroyable. Donc, voilà.
T'as vécu à une époque au Japon. Est-ce que oui. T'as flashé les Invaders de Tokyo ou t'as découvert l'appli trop tard?
Alors, je sais pas à quand remontent les... Je sais pas combien d'invasions de Tokyo Invaders a fait. Peut-être une, peut-être deux, peut-être trois, je sais pas. Je crois qu'il y en avait 136 hein, de recensés.
Je vais te dire.
Ouais.
Il y a eu 6 vagues d'invasion et 138 Invaders.
Ouais.
Précisément. Et ça date de 99 à 2014.
Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai passé une des plus belles journées au Japon de ma vie. J'y suis resté 7 ans et demi, hein, donc j'ai des belles journées, j'en ai eu beaucoup. Mais quand je suis tombé accro de Flash Invaders, évidemment, le premier truc que j'ai fait quand j'ai dû retourner au Japon pour bosser, c'était de me garder une journée pour aller flasher le maximum de mosaïques. Et c'était très compliqué parce que j'avais pas forcément les bonnes références, donc moi, j'y suis allé vraiment à l'aventurier. Mmh. J'ai passé une nuit blanche, je te jure, une nuit blanche, en fait, sur les réseaux sociaux japonais pour éplucher toutes les photos que je pouvais trouver de Tokyo. Et dans les photos prises par des gens, par des lambda, en fait, qui disaient, tiens, regardez, il y a une mosaïque rigolote ici, ça fait penser à Galaga, enfin voilà. Et ben, j'allais chercher le moindre détail qui pouvait me donner un indice sur l'emplacement, quoi. Ouais. Et c'était un nom de restaurant. Parfois, sur le poteau électrique, c'était juste une petite pub pour un lavomatique. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver 8 ou 9 Invaders dans la journée. Et évidemment, j'ai fait chou blanc sur plusieurs qui étaient détruits ou qui avaient été enlevés. Mais j'ai quand même réussi à en retrouver 8 ou 9 et c'était génial. J'ai passé une après-midi à découvrir des quartiers que je regardais plus vraiment ou que je ne connaissais pas. Et ouais, franchement, c'était une très belle journée. J'aimerais bien Après, c'est dur le Japon. C'est-à-dire que le moindre tac là-bas, tu te fais choper, tu passes 28 jours en garde à vue et c'est chaud, quoi. Ah oui. Donc, j'imagine que c'est pas simple pour, pour un street artiste d'aller au Japon. Mais en tout cas, voilà, il y en a encore quelques-unes, ouais, ça c'est sûr. Je sais pas combien, est-ce que ça, tu peux arriver à le savoir, combien sont encore en activité, quoi.
Il y en a 8, 8 et 5, donc il y en a 13.
Ouais. J'ai eu la chance de presque toutes les avoir, mais quel dommage.
Il y a une pièce mythique, je sais pas si elle était encore visible quand tu y es allé, qui est un Astro Boy.
Ouais, je l'ai, ouais.
Ouais, TK-119 qui est sublime et qui fait rêver tout le monde, mais qui, bon, qui sera plus jamais reposé. Mais
elle est toujours là, non?
Non, elle a été détruite.
Elle a été détruite, elle était sur un pont à Shibuya ou Ikebukuro, je ne sais plus, un des deux. Et,
elle a été détruite il y a 3 ans, 4 ans peut-être.
Ah ouais, ouais.
Donc tu vois.
Non, au Japon, non, c'est vrai qu'au Japon, ils ne rigolent pas du tout avec, avec, entre guillemets, ce qu'ils appellent des incivilités. Moi, c'est vrai que les tags, les graffitis, je trouve ça vraiment immonde, mais je vais être... pour le coup, est pas très fair vis-à-vis de d'autres street artists, mais c'est vrai que pour, je sais pas pourquoi, Invaders, pour moi, c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est vraiment autre chose. Et...
Quelle est la plus belle œuvre que tu aies flashée?
Je pense que j'en ai déjà parlé. C'est peut-être le bol de ramen, parce que je suis un fou totalement absolu de gastronomie asiatique, japonaise. Donc pour les ramen, ou alors le feu pour la cuisine vietnamienne. Donc je pourrais me nourrir que de ça. Donc celle-là, en plus c'est mon premier, c'est le premier que j'ai flashé. Donc ça reste peut-être ma préférée. Et puis, ouais, c'est celle-là. Et puis finalement à Tokyo, j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi, c'était au-dessus d'une boutique de vin. Une boutique française qui, enfin en tout cas qui se veut française. Et au-dessus de la devanture, il y a un panier avec une bouteille de vin, j'ai trouvé ça très chouette. Ah oui, si, il y en a une autre que j'adore. C'est une des mosaïques à Dijon. Je suis dijonnais, moi, à la base. Et donc, quand je suis rentré voir ma famille, j'ai vu qu'il y en avait 6, alors je les ai cherchées, je les ai trouvées assez facilement. Et il y en a une qui reprend un pot de moutarde sur la place du marché, avec un envahisseur, évidemment, à l'intérieur du pot de maille, quoi. Et je, en tant que dijonnais, j'étais très fier de voir cette mosaïque, ouais. Voilà.
La mosaïque dont tu parles dans le 13e, c'est PA-1316, qui a été posée en 2017. Voilà.
En 2017, ouais. Ben, c'était 2 ans avant que je commence, ouais.
Est-ce que tu as des anecdotes sur un SI ou sur un voyage, ou des choses que... Enfin, tu as parlé du Japon et de ta journée, cela dit, c'est une belle anecdote.
Ouais, effectivement, j'ai aussi converti beaucoup de gens. J'ai aussi parfois pris pas mal de risques. Le jour où Invaders, justement dans le 13e arrondissement, a posé toute une série de mini-envahisseurs le long du périph', j'ai été un peu gueudin quand même, parce que j'ai quasiment pilé sur le périph', parce que je voyais des gens en fait qui étaient le long du périph', qui prenaient des photos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, je vois des Invaders. Et je me dis, c'est pas vrai, il en a posé ici. Donc, je me suis arrêté. Il avait dû les poser la veille, tu vois. Et il y avait un monde fou. Et donc, je me suis garé n'importe comment à la sortie du périph' pour aller faire mes photos. Ouais. Enfin, bref.
Alors, il y a une grosse vague de réactivation de ces pièces-là.
C'était
n'importe quoi et tout le monde se précipitait. Moi, je suis allé le jour même de la réactivation.
Ouais.
Et les gens marchaient sur, enfin, dont moi, hein, sur le bord de la voie d'accès.
On s'est peut-être croisés alors à ce moment-là, c'est possible. Ouais. Moi, je suis arrivé ce jour-là, j'imagine. C'était vraiment par hasard parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi.
Je les ai flashés en octobre 2020, donc ça fait 6 ans, en fait.
Ouais.
Est-ce que tu sais si Monsieur Nishikado connaît le travail d'Invader? Et si oui, qu'en pense-t-il?
Bien sûr, oui, ils connaissent très très bien. J'ai fait venir Monsieur Nishikado à la sortie de la biographie. Il est venu en France pour donner des conférences et puis faire des dédicaces. Va savoir si Invader s'était pas caché dans les gens qui étaient là, je sais pas. Quoi qu'il en soit, évidemment, moi quand j'écrivais la biographie, c'est pour ça que je te teasais un petit peu ce que je vais dire maintenant, mais évidemment, je connaissais le travail d'Invader. C'est l'un des premiers trucs dans le dernier chapitre de la biographie où on parle de l'influence de Space Invader sur la pop culture, etc. Donc, je cite Invader, c'est son travail illégal. Tu vois, je l'ai écrit de toutes lettres parce que, en réalité, je voulais aborder ce sujet beaucoup plus en détail. C'est juste que c'est Taito qui m'a demandé de ne pas le faire. ils m'ont dit c'est quelque chose qui est potentiellement problématique. Nous, d'un point de vue politique, on ne peut pas prendre position vis-à-vis du travail d'Invaders. On connaît son travail, on ne veut pas l'embêter parce qu'on n'a pas le droit de le dire en honte, mais on aime bien.
D'accord.
Voilà. Mais le problème, c'est que si on dit on aime bien, c'est la porte ouverte à plein de problèmes. Peut-être dans d'autres pays, par exemple le Japon, eux, ils ne tolèrent absolument pas le street art. Dans d'autres pays, ça peut être aussi problématique. Et puis, ça reste quand même une propriété intellectuelle. Et à un moment, Taito, s'il n'y a pas de validation officielle, normalement, ils sont censés taper du poing sur la table en disant soit vous payez des droits, soit vous obtenez une licence officielle, ou alors vous arrêtez. Vous violez la propriété intellectuelle. Donc, officiellement, ils n'avaient absolument pas le droit de se prononcer, mais M. Nishikado, il aime beaucoup.
D'accord.
Voilà. Et là aussi, on a fait pas mal de photos à l'époque de M. Nishikado devant... devant des invaders, quoi. Voilà.
Excellent.
Mais ça, je peux, évidemment, je le dis maintenant parce qu'à prescription, le bouquin a plus de 10 ans, et puis voilà, mais dans les faits, j'étais un peu obligé de marquer cette mention, mais j'aurais voulu en écrire beaucoup plus, tu vois, et lui poser vraiment la question et qu'il réponde de façon officielle, mais voilà, la direction de Taito, lors de la validation du bouquin, m'a quand même autorisé à parler de ça, parce que c'est vrai que c'est une influence sur la culture. Et Invader, ça a fait beaucoup aussi pour le jeu de son côté quelque part, mais c'était c'était le seul truc autorisé. Ouais.
Taito a validé le livre parce que vu de la France, c'est une biographie officielle, mais qui est éditée en France, en français.
Enfin, oui.
Je ne sais pas si elle a été traduite en japonais, mais c'est fou que Taito ait relu et validé le livre.
Ah oui, c'est un produit 100% officiel. C'est-à-dire que le bouquin, il a fait partie... Il a été traduit en japonais, donc il est sorti au Japon. Je suis assez fier de ce truc-là, parce que je suis le premier Français à avoir sorti un livre sur les jeux vidéo, sur leur histoire à eux, au Japon. Mais c'est un produit qui faisait partie de la sélection un peu officielle pour les 40 ans. Je crois, c'était 35 ou 40 ans de Space Invaders. C'était en 2018, et la version japonaise donc est sortie pour les 40 ans de Space Invaders. Donc c'était évidemment, tout a été validé. Moi, les interviews, je les ai toutes faites à l'intérieur des bâtiments de Taito. Ils m'ont montré leurs archives, j'ai vu les documents qui ont servi à créer le jeu Space Invaders. Enfin bref, j'ai eu cette chance de vraiment voir le jeu jusque dans ses entrailles. Et donc oui, c'est un produit officiel Taito. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure, soit sur Space Invader, le jeu, soit sur Invader, l'artiste et les mosaïques, soit...
Ouais, alors évidemment, je rêve d'un jour pouvoir croiser, interviewer Invaders, voilà. Bon, dans quel but pour le Japon, pourquoi pas, sauf que, voilà, peut-être que c'est problématique pour le Japon, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, sinon, je travaille sur un énorme projet, peut-être que parmi vous, il y en a qui en ont entendu parler, mais c'est le projet Odyssée. Le projet Odyssée va voir le jour dans 2 ans, à peu près, et ça va être le plus gros musée du jeu vidéo au monde. Voilà. Donc je travaille activement sur ce projet, ça va être à Bussy-Saint-Georges, pas très loin de Disneyland, un endroit qui est vraiment idéal pour ce genre de projet. Et avec l'équipe, je leur avais dit, ce serait cool quand même qu'au moment de l'ouverture, Invaders nous fasse la surprise d'avoir caché un Invaders quelque part sur le musée, quoi. Et donc voilà, je lance un appel. Si jamais dans 2 ans, il ne sait pas quoi faire, il y aura peut-être de la place, un mur de libre sur le musée Odyssée, voilà, pour les amis flasheurs.
Je ne sais pas si tu as vu, il y a une expo en ce moment à la Philharmonie sur la musique dans le jeu vidéo.
Bien sûr.
Et il y a 7 mosaïques qui ont été posées.
Exactement.
À l'ouverture de l'expo.
Et en réalité, j'étais au vernissage de cette exposition.
Ouais.
Et en arrivant devant l'entrée, je vois un énorme Daft Punk. Je fais, mais c'est pas possible, il en a... Et je le flash, validé, 100 points. Je fais, banzai, quoi. Et j'étais, mais ça m'avait fait ma soirée. J'étais trop content. Je rentre chez moi le soir et je vois qu'en fait, il y en avait 7 ou 8, en fait. Et donc, ça m'a ruiné ma soirée. Parce que j'étais dégoûté d'en avoir trouvé. Enfin, je ne savais pas. Hein, j'avais pas été assez attentif. Mais voilà, j'ai découvert que pour cette exposition, il y en avait eu 7 de produites et moi, j'en ai vu qu'une seule. Voilà, donc il va falloir que j'y retourne. Ça ne m'arrange pas, la Villette, ce n'est pas pratique pour moi. Mais j'y retournerai pour les flasher, c'est sûr. Voilà.
Un dernier point sur ton livre, j'ai du mal à le trouver, il est en rupture, est-ce qu'il sera réimprimé un jour ou pas ?
Je sais pas. Je vais voir avec Taito s'ils sont OK pour... dans 2 ans, c'est les 50 ans de Space Invaders, donc peut-être qu'il pourrait être pas mal de le rééditer. Donc, effectivement, je suis désolé, le bouquin est très difficile à trouver aujourd'hui, il est assez rare, mais voilà, en cherchant bien, peut-être que vous arriverez à en trouver un exemplaire. En attendant, peut-être 2028, je l'espère.
OK. En tout cas, il est très, très intéressant.
Merci beaucoup.
Merci Florent pour cette interview, c'était un plaisir.
Le plaisir est partagé et bonne chance à tous les Flashers.
Et à bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Fin de cette nouvelle interview, vous pourrez retrouver les précédents épisodes et les prochains sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr. À très bientôt, bon Flash.